Alors, on est dans la série sur le livre de Jonas. Donc, on continue donc l'histoire de Jonas, un livre en tout cas qui à la fois nous montre qui est Dieu. C'est un livre qui nous révèle, bien sûr aussi, hein, dans toute la parole, qui est Dieu, le caractère de Dieu, et un livre aussi, eh bien, qui nous invite à nous examiner par rapport à Jonas. Est-ce qu'on a des différences avec Jonas? Est-ce qu'on a des ressemblances avec Jonas? On peut trouver les deux. Nous, en tant qu'Église. Et on a vu dans les chapitres 1 et 2, donc, on a vu que Dieu est souverain. Donc, il a appelé Jonas, a appelé à venir prêcher aux Ninivites, c'est ce peuple très méchant, et Jonas qui a désobéi. Chapitre 1 et 2 qui nous ont montré que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, que l'homme lui obéisse ou pas, Dieu est souverain. C'est sa volonté qui s'accomplit, qui s'accomplira. Et le chapitre 2 nous a montré Jonas en train de prier dans le ventre du poisson. Hein, et dans ce chapitre 3 qu'on va voir aujourd'hui, eh bien, on va voir que Dieu est non seulement souverain, mais qu'il est aussi miséricordieux. Ce qu'il veut montrer à Jonas, ce qu'il veut montrer à nous, et bien sûr aux Ninivites et à chacun. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message « Dieu de la seconde chance ». Parce que Dieu est aussi le Dieu de la seconde chance, parce que Dieu est miséricordieux. Dieu est le Dieu de la seconde chance, et je précise, tant qu'on est vivant, parce qu'après c'est trop tard. Trop tard de faire la paix avec lui après la mort. Alors, lisons Jonas, chapitre 3, le livre de Jonas. Seigneur, merci pour ce livre, veuille nous ouvrir le cœur et l'intelligence pour recevoir ta parole, pour la laisser agir en nous. Pour te voir à travers ta parole, Seigneur, aussi pour nous examiner. Et Seigneur, merci parce que ce que tu as commencé en nous, tu vas le terminer. Merci, Père, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, Jonas, chapitre 3, je vais commencer à partir du dernier verset du chapitre 2. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite !» Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, lequel se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point ? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, Dieu est le Dieu de la seconde chance. Ce qu'on peut affirmer d'après ce texte, c'est que Dieu souverain se révèle dans sa miséricorde. C'est ce que je vous propose de voir. On va voir ça en 3 points. Dieu se révèle dans sa miséricorde, premièrement, par la proclamation de son jugement imminent. Ça fait partie de sa miséricorde. Deuxièmement, nous verrons que, eh bien, la prédication de sa parole change des vies. Et troisièmement, nous verrons que, comment la miséricorde de Dieu se révèle-t-elle? Eh bien, elle se révèle lorsque Dieu se repent de son jugement, lorsque des gens se repentent. Donc premièrement, voyons que Dieu se révèle par la proclamation de son jugement imminent. C'est ce qui précède la miséricorde, je vous l'ai dit. Est-ce que Dieu a changé son plan? Un prophète récalcitrant qui désobéit, qui va à l'opposé de là où Dieu l'a envoyé? Non, Dieu n'a pas changé son plan, malgré la désobéissance de son prophète Jonas. Alors, il a toujours son plan, et face à un prophète à son prophète rebelle, est-ce que Dieu a choisi quelqu'un d'autre que Jonas pour aller prêcher aux Ninivites? Non. Il veut toujours que les Ninivites entendent sa parole pour être sauvés et qu'ils entendent sa parole par Jonas. Là-dessus, Dieu n'a pas changé d'avis. Il est souverain. Alors Jonas, quant à lui, eh bien, sa désobéissance l'a entraîné sur une pente descendante. De plus en plus, il n'a cessé de descendre. Il a commencé par descendre déjà dans la cale du bateau, où il dormait tranquillement. Puis il a été jeté par-dessus bord, donc plus bas que le bateau. Puis enfin, il a atteint le fond. Il a atteint le fond dans les profondeurs du gros poisson que Dieu avait envoyé. Il a atteint le fond. Il a touché le fond. Et pourtant, Jonas, qui se croyait rejeté par Dieu, chassé loin de son regard, comme il le dit lui-même, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il finit par le louer dans le ventre du gros poisson. Il le loue pourquoi? Pour la bonne raison. La première raison, c'est qu'il est en vie. Il est en vie. Premier signe de la miséricorde divine. Il est en vie. Dans les entrailles du gros poisson, même si ça sent mauvais. Et Jonas, on l'a vu la semaine dernière, il est confiant que sa délivrance, il est en vie, il est confiant que sa délivrance prochaine arrivera. Et c'est que lorsqu'il a touché le fond, que Dieu l'a fait remonter à la surface. À un moment bien précis, lorsqu'il a terminé sa prière dans le ventre du gros poisson, par une promesse qu'il a faite à l'Éternel, tout en proclamant que le salut vient de lui. On va le relire, c'est dans chapitre 2, verset 9 ou 10, ça dépend de vos versions. Voici ce qu'il dit avant d'avoir été vomi par le poisson, juste avant. « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » Jonas, là, il s'est lié par ses paroles, hein, et on va voir quel impact ça a eu, on va le voir plus tard. Il a promis à Dieu, « J'accomplirai les vœux que j'ai faits. » Et ce n'est qu'à ce moment-là que le poisson a vomi Jonas. Jonas, le voilà enfin sur la terre ferme. Imaginons un peu comment il a dû se sentir après être passé par les profondeurs, après avoir touché le fond. Comment il a dû se sentir? Il est en contact avec la terre ferme. Est-ce qu'il a embrassé la terre ferme? Combien il a dû se sentir heureux d'être sauvé? Plus de tempête, plus d'obscurité. Ça sent bon, ça sent plus la... Ça sent plus les entrailles. Il est au sec. Et puis imaginons, 3 jours dans le ventre du poisson, il était dans l'obscurité. Il a dû être aveuglé après 3 jours dans l'obscurité, lorsqu'il a ouvert les yeux, une fois qu'il a regagné la terre ferme. Pour lui, ça a été une véritable renaissance. Et pour nous, est-ce qu'on se rappelle la joie que nous avons eue lorsque nous sommes nés de nouveau? Si c'est votre cas. La joie que nous avons eue quand nous avons compris l'amour du Seigneur pour nous, qui s'est donné pour nous. Lorsque nous sommes passés des ténèbres du péché à la lumière divine, à la lumière de Jésus. Est-ce qu'on se rappelle ce moment-là? Lorsque nous avons accepté son salut en Jésus-Christ. C'est bon de se rappeler ce par quoi Dieu nous a fait passer. Et alors, qu'est-ce que nous faisons de ce salut dont nous avons été l'objet? Est-ce qu'on a envie de le partager à ceux de notre entourage qui ne connaissent pas l'Éternel? Ou bien est-ce qu'on veut garder jalousement ce que Dieu a fait pour nous, comme c'était le cas pour Jonas? La réponse que nous allons donner, elle est révélatrice de l'état de notre cœur. Est-ce qu'on veut le partager ou est-ce qu'on veut garder pour nous cette bonne nouvelle? Et est-ce qu'on prend au sérieux le risque qu'encourent ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile de Jésus-Christ? Parce qu'il va revenir. Est-ce qu'on prend au sérieux ce qu'il risque lorsque le jour de l'Éternel va arriver? Parce qu'on agit selon ce qu'on croit. Nos actes dépendent de nos convictions. Alors la question que je me suis posée, hein, qu'on peut tous se poser, eh bien, qu'est-ce que nous faisons ne serait-ce que pour le salut d'une seule personne? Une seule personne que Dieu nous met à cœur. Qu'est-ce que nous faisons? Voici ce que dit le livre de Joël en ce qui concerne le jour de l'Éternel, lorsque Jésus va revenir. Joël chapitre 2, fin du verset 11 jusqu'au verset 14, je vous le lis. « Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir ?»« Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en beauté, en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu? Il est encore temps maintenant de se repentir. Pour nos contemporains, pour chacun. Avant qu'il ne soit trop tard. Dieu va-t-il offrir un nouveau départ à Jonas? Il est sur la terre ferme. Eh bien oui, complètement. Pourquoi? Parce que Dieu est miséricordieux. Et dans sa grâce, Dieu veut donner une seconde chance à Jonas. Il n'en a pas fini avec lui, comme il n'en a pas fini avec nous. Il l'appelle une seconde fois, nous dit le texte. Et c'est la même injonction qu'au premier appel. Mais cette fois, il précise bien, l'Éternel, que c'est un ordre, parce que Dieu est souverain. Je relis le verset 2, l'injonction de l'ordre de Dieu à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » C'est un ordre. C'est un nouveau départ que Dieu offre à Jonas. Est-ce que Jonas s'était rendu compte que Dieu, dans sa miséricorde, lui avait offert ce nouveau départ? Une seconde chance qu'il ne méritait pas. Déjà, Dieu l'a laissé en vie lorsqu'il l'a délivré du ventre. Non seulement il était en vie dans le ventre du poisson, mais il en a délivré. Il était en vie déjà. Signe de la miséricorde divine. Et est-ce que là, en entendant ce second appel de Dieu, Jonas vois combien Dieu est miséricordieux. Il n'en a pas fini avec lui. Dieu a renouvelé l'appel à Jonas. Il aurait très bien pu faire appel à quelqu'un d'autre qu'à un missionnaire aussi récalcitrant. Mais ce n'est pas le cas. Jonas aurait pu se sentir rejeté à ce moment-là. Et vous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez eu l'impression parfois d'avoir touché le fond? Parce que vous avez désobéi à Dieu. Et vous pensez, c'est terminé. Dieu me rejette, loin de sa face. Vous pensez qu'il en a fait fini avec vous. Et vous pensez qu'il ne voudra plus vous utiliser. Et est-ce que vous redoutez une punition? Si vous avez d'amers regrets pour avoir désobéi, eh bien, votre tristesse, c'est déjà votre punition. Si vous avez perdu la joie du Seigneur. Et si Dieu avait pardonné à Jonas, un missionnaire aussi récalcitrant, il vous pardonnera à vous aussi. Si vous lui demandez pardon, il vous pardonnera à cause de Jésus-Christ, qui a pris sur lui votre punition et la mienne. Ou bien peut-être, comme Jonas, vous avez laissé passer une opportunité de le servir. Ou bien encore, vous avez obéi, vous avez fait tout ce que vous pouviez pour obéir, mais vous avez eu l'impression d'échouer dans votre ministère, ou votre service, ou votre vie. Alors, la question, est-ce que vous avez déjà prié pour une seconde chance? Que Dieu vous donne une seconde chance. Que Dieu vous donne une seconde chance. Jonas n'avait pas demandé à ce qu'il ait une seconde chance de servir. Il était bien content d'être en vie. Pourtant, Dieu lui a donné une seconde chance. Tant qu'on est vivant, Dieu est le Dieu de la seconde chance. Alors dites-vous qu'il y a encore de l'espoir. Et je citerai Romains 11, 29, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu a besoin de toi, même si tu n'es pas prêt à toi-même aller vers les autres. Peut-être tu n'oses pas parler aux gens. Eh bien, dans ce cas, il y a quand même une chose que tu peux faire, que tu peux déjà faire. C'est prier que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson, parce que c'est ce que Jésus demande en Matthieu 9, versets 37 à 38. Voici ce qu'il dit. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça, on peut tous le faire. Et puis, bien sûr, être à l'écoute. Alors, Jonas, second appel, seconde chance. Cette fois, il a obéi. Cette fois, il a obéi, Jonas. Il a obéi à l'ordre de Dieu d'aller à Ninive. Verset 3, chapitre 3. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Et on peut se projeter, se demander comment était Jonas à ce moment-là. Quels étaient les sentiments de son cœur? Déjà, pour aller à Ninive du rivage, pour aller jusqu'à la ville de Ninive, du rivage où il a été vomi par le poisson jusqu'à Ninive, on compte à peu près une vingtaine de jours. Donc il a marché. Et certainement qu'en marchant, il a dû réfléchir, Jonas. Et on réfléchit bien en marchant. J'aime beaucoup les marcher parce que là, c'est souvent dans le mouvement qu'on réfléchit bien, qu'on peut prier aussi. En tout cas, certainement que Jonas, il a dû marcher pendant ces 20 jours pour aller à Ninive. Et il a certainement dû réfléchir à ce qui lui est arrivé. Il a dû repasser le film dans sa tête, le film en arrière. Alors en tout cas, je ne sais pas s'il y est allé de gaieté de cœur. Je ne crois pas. On n'a pas l'impression qu'il aille à Ninive de gaieté de cœur. Il y va pourquoi? Parce qu'il y est bien obligé. Parce que Dieu le veut et l'a ordonné. En fait, c'est une reddition. Il se rend à Dieu. Jonas se rend à Dieu. Il s'est souvenu que Dieu fait ce qu'il veut, alors autant lui obéir. Et puis aussi, n'oublions pas qu'il avait fait une promesse à Dieu dans le ventre du gros poisson. Il a dit qu'il accomplirait ses vœux envers l'Éternel. Et un vœu, frères et sœurs, c'est une promesse qu'on fait pas à n'importe qui. C'est une promesse qu'on fait à Dieu. Et la Bible dit qu'il vaut mieux ne pas faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Et même, il vaut mieux l'accomplir promptement plutôt que de laisser passer les jours. Ecclésiaste 5:5. Et j'aimerais juste un petit... Je vais m'arrêter sur les vœux. Est-ce que vous faites des vœux? Parfois, il y a des vœux qui sont inconsidérés, qu'on ne peut pas atteindre. Et ceux-là, il vaut mieux ne pas les faire si on ne se sent pas capable de les faire. Mais il y en a d'autres qui sont à notre portée et qui, je crois, nous font avancer dans la vie chrétienne. Si, par exemple, vous luttez avec un péché, que ça soit aller sur Internet, sur des sites porno ou sur des sites pas bons, que ça soit peut-être vous n'arrivez pas à vous maîtriser avec la nourriture, que ça soit la colère, pourquoi ne pas faire de vœux à Dieu, mais des vœux atteignables? Aujourd'hui, je veux ne pas aller sur Internet, sur ces sites-là. Aujourd'hui, je veux montrer à mon conjoint que je l'aime. Des vœux atteignables, bien sûr. Et dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Mais on peut s'en fixer, parce que ça va nous aider dans la vie chrétienne à avancer. Voilà. Alors voilà donc Jonas arrivé à Ninive. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va crier dans les rues. Il va crier, c'est ce que Dieu lui a demandé. Imaginons Jonas qui arrive à Ninive. Il devait sentir le poisson, très mauvais. Et certainement qu'il devait faire peur, parce qu'il était dans les sucs gastriques du poisson. Il devait certainement être pâle. Et les gens ont dû le fuir quand il a traversé les rues de Ninive. Il crie. Il proclame la parole que Dieu lui a ordonné de dire, ni plus, ni moins. Encore 40 jours et Ninive est détruite. On peut faire plus long comme prédication. Il ne dit même pas aux Ninivites de revenir de leur mauvaise voie, de se repentir. Il ne prononce même pas le nom de Dieu. Il ne dit pas qu'il est miséricordieux, qu'il fait grâce. Il n'est pas en train de crier « Dieu vous aime !» Mais plutôt il annonce le jugement sans équivoque pour tous, hommes, femmes et même les animaux, par la destruction de Ninive. Pas de campagne d'évangélisation, pas de blagues ni de musique techno pour attirer les jeunes. Mais il s'en tient à ce que Dieu lui a demandé de dire. Il a reçu un appel directement de Dieu, même pas du roi d'Israël. Il a reçu l'appel de Dieu pour aller prêcher à Ninive. Le roi d'Israël, il avait des démêlés avec le roi d'Assyrie. Et là, Jonas a été appelé directement par Dieu. Voilà donc Jonas qui prêche la destruction de Ninive, et étant donné qu'on voit un peu son cœur, on commence à le voir, certainement qu'il a dû se réjouir, Jonas. Il a dû se réjouir en pensant au jugement que Dieu lui a ordonné de prêcher, c'est-à-dire la destruction de Ninive. Enfin, cette ville tellement cruelle qui a fait tant de mal à son peuple allait enfin être détruite. Mais est-ce que Jonas s'attendait à ce que les choses tournent comme elles ont tourné suite à sa prédication? Il ne devait pas oublier que les résultats appartiennent à Dieu. Dieu qui est souverain, et non seulement souverain, mais il est miséricordieux et il est juste. Et déjà dans sa prédication, encore 40 jours et Ninive sera détruite, on voit la miséricorde de Dieu. Dieu a laissé un délai à Ninive pour se repentir, 40 jours. La miséricorde, elle est déjà présente dans le message de Jonas, aussi court soit-il. Alors, quel résultat suite à la prédication de Ninive? Eh bien, est-ce qu'on s'y attendait? Les Ninivites ont cru à Dieu. Ils ont publié un jeûne. Ils se sont revêtus d'un sac, c'était un signe de deuil. Signe de deuil et de repentance. Et ils ont fait ça avant le roi. Ils n'ont pas attendu le roi. Mon deuxième point, eh bien, la prédication de la parole de Dieu change des vies. On peut se poser la question, comment se fait-il qu'un appel si bref et si vibrant à se repentir eut un tel effet auprès de tout un peuple qui était barbare, les Ninivites, qui ne connaissaient pas le Dieu de Jonas? Ils ne connaissaient pas grand-chose de ce Dieu. Comment on peut expliquer une telle traînée de poudre? Eh bien, certains supposent que Jonas a témoigné de son passage dans le ventre du gros poisson lorsqu'il a crié. Mais le texte ne le dit pas. Moi, je crois que Jonas s'en est tenu à ce que Dieu lui a ordonné de dire. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Comment se fait-il que ce message de Jonas se soit répandu comme une traînée de poudre? Eh bien, ce texte nous montre quoi? Un seul homme peut faire la différence. Aussi bien en mal qu'en bien. Un seul homme peut faire la différence. La désobéissance d'un seul homme, Adam. Alors c'était Ève qui a désobéi, mais lui il était responsable de son foyer. C'était lui le responsable. La désobéissance d'un seul homme, Adam, a fait rentrer le péché dans toute l'humanité. Si nous sommes pécheurs, c'est parce qu'un seul a désobéi. La désobéissance d'un seul homme peut amener la tempête sur son entourage, qu'il soit croyant ou pas. Ça a été le cas pour Jonas dans le bateau, où il y avait des marins qui étaient païens. La tempête est retombée sur tout le monde, croyant ou pas. Et on peut le constater aussi, si un pays a un mauvais dirigeant, eh bien c'est tout le pays qui en est malade. Des hommes jusqu'aux bêtes. Mais l'inverse est aussi vrai. L'obéissance d'une seule personne peut amener à salut plusieurs autres, comme ce fut le cas pour Jonas. Et on a d'autres exemples dans la parole. La reine Esther, une juive, elle a obéi à Dieu, elle a eu le courage d'aller voir le roi des Perses, et elle a sauvé ainsi son peuple juif, de tout un massacre. Une seule personne, homme ou femme. Je ne sais pas si vous avez vu le film La liste Schindler. Je vous le recommande, c'est une histoire vraie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, donc là, vous pouvez voir dans les bonus les témoignages des personnes qui sont revenues de la Shoah et qui ont été en contact avec Schindler. Un des rescapés de la Shoah, il a déclaré ceci, que un seul homme, en l'occurrence Schindler, qui était un homme d'affaires, riche homme d'affaires, il a pu sauver 1200 juifs d'une mort certaine. Comment? En les employant dans son usine, dans ses usines. Un seul homme a fait la différence. Et c'est un des rescapés qui témoignait. Peut-être vous connaissez le frère André qui est décédé, c'est lui qui a fondé la mission Porte Ouverte, la mission qui œuvre parmi les chrétiens persécutés. Il a commencé par aller livrer des Bibles au-delà du rideau de fer, dans deux chevaux, si je me rappelle bien. Il a écrit un livre que je vous recommande qui s'appelle Opération Ninive. C'est l'histoire de il commente l'histoire de Jonas. Et voici ce qu'il dit, le frère André, dans son livre Opération Ninive. Son témoignage. On me dit courageux d'aller rencontrer les chefs de groupes terroristes pour leur parler de Jésus. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas du courage, c'est seulement de l'obéissance. Je n'ai rien fait que vous n'auriez pu faire, dire ou croire. Je dis souvent, si moi, un simple Hollandais, je peux faire ça, alors 1 million de personnes peuvent le faire aussi. Quel témoignage. C'est pas du courage, c'est de l'obéissance. Une seule personne peut faire la différence. Et ce n'est pas forcément le roi. Jonas aurait pu se dire, allez, je vais commencer par le roi, je vais demander une audience au roi ou au président, comme ça, s'il se repent, c'est tout le pays qui suivra, ça va retomber en bien sur tout le pays. Mais Jonas n'a pas eu besoin de demander une audience au roi. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, petit ou grand, avec ou sans le roi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Jonas? Eh bien, la prédication de Jonas a trouvé écho chez qui? Avant le roi. Eh bien, elle a trouvé écho chez le peuple. D'abord chez le peuple. Et le texte nous dit depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le peuple n'a pas attendu l'ordre du roi ou une loi pour se réveiller. Imaginons la scène. Une première personne a mis un sac en signe de deuil suite à la proclamation de Jonas. Les autres l'ont vu faire. Pareil, ils ont mis un sac en signe de deuil. Et c'est ainsi que la repentance a fait son chemin parmi le peuple. Résultat, eh bien, quand une seule personne se repent, les autres de son entourage peuvent aussi se repentir. Comme ça s'est passé à Ninive. Et ça peut remonter jusqu'au président de la République, comme c'est remonté jusqu'au roi. Le roi de Ninive, il a entendu la nouvelle, il s'est repenti, et il a fait cette proclamation au verset 8 que je relis. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Il est question de cri dans ce texte. Beaucoup, beaucoup de personnes ont crié. Dieu avait demandé à Jonas de crier contre elle. En réponse au cri de Jonas, qui annonçait le jugement, les Ninivites ont crié en publiant un jeûne. Et le roi a demandé à son peuple qu'il crie à Dieu avec force. Tout cela par la proclamation d'un seul homme qui a crié. La proclamation de la parole de Dieu. La proclamation de la parole de Dieu par un seul homme a entraîné ce qu'on peut appeler une réaction en chaîne, depuis le peuple jusqu'au roi. Et au final, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini le travail commencé par Jonas. Jonas n'a fait que commencer le travail. C'est le peuple puis le roi qui ont terminé le travail, en annonçant la repentance. C'est moins lourd à porter. Le roi a reconnu que cette proclamation de Jonas venait de Dieu, même si son nom n'a pas été prononcé. Il a reconnu que aussi bien lui-même que tout son peuple était cruel, qu'il méritait le jugement que Jonas annonçait, et qu'ils avaient besoin de revenir de leur mauvaise voie, de leur méchanceté. Pourquoi? Pourquoi en était-il conscient, un peuple aussi méchant? Eh bien parce que c'est Dieu. C'est l'intervention de Dieu dans les cœurs qui donne la conviction de péché. Quelqu'un ne peut pas se convertir si Dieu n'intervient pas dans son cœur, par sa parole. Et puis on ne peut pas non plus dire « moi j'ai converti quelqu'un ». Tu sais, l'autre là qui est sorti de telle salle, je lui ai parlé. Non, on ne peut pas dire ça. C'est Dieu qui agit dans les cœurs. Et Jonas l'a dit lui-même, le salut vient de l'Éternel. Le salut ne vient pas de Jonas. Le salut vient de l'Éternel, 2 verset 10, un verset clé. Voilà donc, le peuple s'est repenti, et qu'est-ce qui se passe alors? Quel est-il arrivé à Ninive? Eh bien, après la proclamation de Jonas, Rien ne se passe. Sa menace sur Ninive n'a pas été mise à exécution. Ninive a été épargnée. Pourquoi? Eh bien, parce que, mon troisième point, quand les personnes se repentent, Dieu se repent aussi. Mais attention, ce n'est pas la même repentance. Quand les personnes se repentent, Dieu se repent aussi. Mon quatrième point, pardon. C'est étonnant que le mot repentance soit utilisé pour Dieu, vous ne trouvez pas? Les hommes ont besoin de se repentir, on a besoin de se repentir. Mais Dieu ne se repent pas du mal, il n'y a aucun mal en lui. De quoi il se repent alors? Eh bien, Dieu s'est repenti de son jugement qu'il avait prévu d'envoyer sur Ninive. Il s'est repenti de son jugement voyant la repentance des Ninivites. Il est revenu de l'ardeur de sa colère. Pourtant, l'histoire montrera que, eh bien, une centaine d'années plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Ninive sera bien détruite, parce que Ninive va retomber dans sa méchanceté. Ninive sera bien détruite. Comme quoi, se repentir, c'est important, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. La bonne volonté de se repentir ne suffit pas. Il faut plus que cela, il faut une transformation de cœur. Une transformation que seul Dieu peut opérer. C'est pourquoi il n'a pas attendu. Vous connaissez, il y a un chant qui s'appelle « Tu n'as pas attendu ». Dieu n'a pas attendu qu'on se repente pour envoyer son Fils Jésus-Christ, pour porter notre jugement sur la croix. Lui, l'innocent, qui s'est donné pour tous. Tous. Il faudra l'obéissance d'un seul homme, Jésus-Christ, cette fois pour racheter l'humanité tout entière de son péché. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout le monde sera sauvé. Chacun a une réponse à donner pour être pardonné. Parfois, je crois, je me souviens, j'ai entendu quelqu'un dire, tu sais, bon, toi tu as été choisi, moi je n'ai pas été choisi pour être sauvé. Personne ne peut dire cela. Personne ne peut dire qu'il n'a pas été élu. Parce que nous avons affaire à un Dieu vivant, et ce récit en est la preuve. Un Dieu vivant qui peut se repentir de son jugement, si la personne se repent. Un Dieu vivant qui peut encore aujourd'hui se repentir du jugement qu'il a prévu d'envoyer sur quelqu'un envers qui il est en colère, si la personne se repent. Et si la personne place sa confiance en Jésus-Christ. Il n'y a pas de fatalité. Le salut est encore offert à tous aujourd'hui. Mais quelqu'un qui refuse de se repentir devant la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, eh bien, il ne fait que confirmer la dureté de son cœur. Et il se place lui-même sous le jugement et la colère de Dieu parce qu'il a refusé que Jésus prenne sa place. Jésus dira aux pharisiens, les pharisiens qui lui avaient demandé un signe, Il leur dira que ce sont les Ninivites eux-mêmes qui les jugeront, parce que eux se sont repentis. En écoutant qui? En écoutant Jonas, un prophète aussi récalcitrant. Alors que les pharisiens ont refusé de se repentir devant Jésus, bien plus que Jonas. Jésus qui est bien plus que Jonas. Et je relis ce texte dans Matthieu 12, les versets 39 à 41. Jésus donc y parle. Il leur répondit donc aux pharisiens, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Dans cette histoire de Jonas, tout le monde s'est repenti, au final. Tout le monde a obéi. Même la nature a obéi à Dieu. Les éléments ont obéi à Dieu avec la tempête. C'est Dieu qui a envoyé la tempête. Les marins se sont repentis et se sont convertis au vrai Dieu, en voyant la tempête se calmer. Le gros poisson a obéi à Dieu, en avalant Jonas, au moment où les marins l'ont jeté à l'eau. Et que s'est-il passé à la fin? Les Ninivites eux-mêmes se sont repentis à la prédication de Jonas. Tout le monde s'est repenti et a obéi. Et Jonas, est-ce qu'il avait changé? Quand on réfléchit à son parcours, il avait fait une magnifique prière de louange dans le ventre du gros poisson. Quelle belle prière, avec des versets appris par cœur. Mais pourtant, avait-il changé? Il était tellement content d'être en vie. Déjà dans le ventre du gros poisson, alors imaginez comment il s'est senti une fois sur la terre ferme. Et imaginez comment il s'est senti lorsque Dieu lui a donné une seconde chance de le servir, de l'utiliser, lui. Mais sa louange a-t-elle vraiment changé son cœur? Son cœur a-t-il été touché en voyant le salut et la grâce de Dieu manifestés envers les païens, les Ninivites? Est-ce qu'il s'est réjoui lorsqu'il a vu les Ninivites revenir de leur mauvaise voie? D'autant plus que Jonas lui-même, il a été l'objet de la grâce de Dieu. Et il a dit lui-même, le salut vient de l'Éternel. Il a été l'objet de la grâce de Dieu. Il a été sauvé par Dieu. Est-ce que son cœur a été touché? Jonas, il doit réfléchir. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire au roi d'Israël? Lui qui pensait que Ninive serait détruite. Au lieu de se présenter en héros au roi d'Israël, peut-être que c'est ce qu'il attendait, en lui annonçant la destruction de Ninive, les ennemis d'Israël, il va devoir leur annoncer la grâce de Dieu qui aura pardonné aux ennemis d'Israël. Dans son livre, le frère André le fait bien souligner. Opération Ninive. Le fait bien remarquer. Est-ce que son amour propre en a pris un coup? Ce qu'il a annoncé ne s'est pas produit, tout prophète qu'il était. Il avait fait ce que Dieu lui a ordonné. Mais Dieu a manifesté sa grâce. Tout le monde s'est repenti dans cette histoire. Même Dieu lui-même s'est repenti du jugement qu'il avait prévu d'envoyer. Tout le monde s'est repenti, sauf un, qui a le cœur toujours aussi endurci, Jonas. Mais Dieu n'en a pas fini avec lui. Et ça, c'est pour le prochain épisode. Suite et fin. Pour plus tard. Et je termine avec cette question pour nous tous. Lorsque nous voyons quelqu'un que nous n'aimons pas parce qu'il a mal agi, il ou elle a mal agi. Lorsque nous voyons quelqu'un se repentir, se tourner vers Dieu, est-ce que nous le prenons au sérieux? Est-ce que nous nous réjouissons lorsque quelqu'un passe des ténèbres à la lumière? Est-ce que nous y croyons d'abord? Lui, elle, se repentir, changer de vie? Et pourtant Dieu peut. Et que ça nous réjouit. Je vais prier. Oui, Père, je veux te remercier pour cette histoire de Jonas. Parce que tu nous montres ton cœur, Seigneur. Tu es souverain, tu fais ce que tu veux. Qu'on t'obéisse ou qu'on te désobéisse, Seigneur. Tu fais ce que tu veux. Alors fais qu'on t'obéisse, Seigneur, oui. Il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de bénédictions à t'obéir, même s'il y a des difficultés aussi. Mais rends-nous, Seigneur, un cœur obéissant, fidèle à ta parole, à l'écoute de ta parole. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque on t'a désobéi. Pardonne-moi, pardonne-nous. Merci parce que tu es un Dieu miséricordieux et qui fait grâce. Tu es un Dieu qui se repent de son jugement lorsque quelqu'un se repent de ses péchés. Merci, Seigneur. Merci de nous révéler, Seigneur, ta personne. Tu nous montres aussi, au travers Jonas, des aspects de notre humanité, Seigneur, de nos personnes. Aide-nous à progresser, Seigneur, à nous laisser transformer par toi, être toujours, Seigneur, à ton écoute, parce que tu es un Dieu vivant qui parle, Seigneur. Même si on connaît des versets de la Bible et on connaît bien ces récits, en tout cas pour la plupart, Seigneur, qu'on reste toujours à ton écoute. Ta parole, c'est une parole vivante, qu'on la laisse agir dans nos cœurs. Et que nous ayons la joie de te voir agir, Seigneur. Non seulement dans nos vies, mais dans la vie des autres, Seigneur, pour qui nous prions. Seigneur, et de la joie de nous réjouir quand un seul pécheur se repent, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.